Et nous allons commencer par désigner un secrétaire de séance. Et je vous propose Monsieur Jean-Michel Marleau, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Je vous fais part des procurations que j'ai reçues. Donc Fanny Cuer m'a donné procuration et René Sauvera a donné procuration à Michel Payalonga. Je vous indique aussi que M. Arcuzet est un démissionnaire dans le groupe Ensemble pour Camaret. C'est M. Richard Bancorsini qui le remplace et je lui souhaite la bienvenue au conseil municipal. Je vous fais part des remerciements.
Pardon, monsieur le maire, puisque vous m'avez accueilli.
Mais je vous en prie.
J'aurais voulu vous remercier.
Ah, mais je vous en prie, vous avez la parole.
Mais je ne sais pas si le micro va, mais je ne l'ai pas
posé. Si. Pour l'enregistrement du conseil municipal. Non,
tout simplement, je voulais vous remercier d'abord pour ces mots d'accueil.
S'il y a un problème, je vous passe mon micro.
Non, tout simplement, monsieur le maire, il me paraissait normal, puisque je suis nouveau dans cette situation, d'abord vous remercier pour ces mots de bienvenue. Et je voulais vous dire aussi que je suis très heureux de siéger dans une assemblée comme celle-ci, car je suis, en tant que citoyen, très respectueux des institutions de notre République. Je veux dire aussi que je suis aussi, comme vous ici, très fier d'être français. Et à ce titre, je pense seulement par nature, comme certains peut-être, mais parce que la France procède à une démocratie qui a fait par le temps ses preuves dans le monde entier et qui aujourd'hui encore est un phare de la démocratie dans le monde. Et à travers cette démocratie, également, elle a donné le droit à l'opposition. Ce droit qui d'ailleurs, je ne ferai pas l'injure de vous le rappeler, est malheureusement bafoué dans beaucoup de pays. Dieu merci que pour ici soit... Bon, ce qui m'a permis quand même, c'est pour ça que je voulais en arriver là, c'était d'abord de rendre hommage à mon prédécesseur à ce poste, Laurent Arcuzet, à qui il veut de reconnaître l'engagement et la compétence sur les dossiers qui lui a permis de jouer son rôle pleinement d'élu. Enfin, je voulais pour terminer vous dire seulement, monsieur le maire, que je serai certainement appelé, dans le cadre de ma fonction, à m'opposer à vous, quelquefois, ce qui sera tout à fait normal. Il faudra que quelquefois mes propos puissent vous gêner, c'est possible. Sachez que de toute façon, même si je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur le maire, ce n'est jamais à la personne, ni à la personne au conseil municipal que je m'adresserai, mais uniquement aux idées. Donc j'ai trop le respect de la personne humaine pour que vous puissiez considérer que mes propos puissent être considérés à un moment donné comme une atteinte directe à la personne. Je pense, si je dis cela, c'est tout simplement en parlant de monsieur Arcuzet. C'est que si malheureusement il nous a quitté, c'est parce qu'il a pas supporté certaines pressions qui ont été imposées, que je trouve intolérables pour une assemblée comme la nôtre. Donc, en tant qu'élu, je pense qu'il est important d'être représentant de notre nation, quel que soit le poste auquel on occupe, et qu'à ce titre, on doit être exemplaire. Je m'y attacherai, et je pense qu'ici, tout le monde partage mon point de vue. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Bien, monsieur Brancorsini, je vous remercie pour vos propos pleins de respect et de sagesse. Donc, je voulais faire part aussi des remerciements que nous avons reçus. Alors, madame Mercedes Gagne, son fils, ses petits-enfants, nous remercie pour les marques de sympathie que nous leur avons manifestées lors du décès de Mercedes Dos Santos. Je vous indique aussi que Madame Simone Brun, sa fille et ses petits-enfants Chirol ont été très touchés par les marques de sympathie qui leur ont été témoignées lors du décès de Monsieur Pierre Brun, dit Pierrot. Et la famille de Jean-Marie Gros a été très touchée par les marques de compassion et de sympathie dans le deuil qui les a frappés et qui nous remercie donc pour le soutien que nous leur avons manifesté lors de l'adieu à Jean-Marie Gros. Alors, je voulais aussi vous faire part de quelque chose qui me paraît important et d'actualité. Vous savez peut-être, si vous avez suivi notre presse, que les Gilets jaunes sont venus nous rendre une petite visite qui, là aussi, s'est passée dans le respect et la courtoisie lors du dernier conseil communautaire à Camaré. Ils ont demandé une entrevue avec les élus, les maires, le président et les vice-présidents de la CCOP. Cette entrevue a eu lieu ce matin. Et ils nous ont demandé de répercuter leurs revendications auprès de Monsieur le Préfet, du représentant de l'État, auprès des parlementaires et dans nos conseils municipaux, auprès de la population le plus largement possible. Donc je me dois d'accéder à leur demande et je vous fais part de leurs revendications. Rassurez-vous, ce n'est pas très long. Je vous indique aussi que l'ensemble des maires qui étaient là ont approuvé ces revendications et se sont engagés à les répercuter comme demandé. Donc je vous lis le texte qu'ils nous ont soumis. Mesdames et messieurs les maires et élus, nous sommes présentés devant vous en conseil de communauté pour exposer la colère et l'exaspération qui gagnent de nombreux Français représentés par les Gilets jaunes. Nous n'avons pas la légitimité des urnes, mais avons la légitimité du cœur. Vous offrez de porter nos revendications aux représentants de l'État et nous vous en remercions. Il suit. Nous, Gilets jaunes, respectons profondément les valeurs de la République et nos institutions, sommes largement favorables à un plan de transition écologique, mais interpellons le président Emmanuel Macron pour que soit mis en œuvre. Gel et moratoire sur les taxes liées à l'énergie, taxer l'aérien et le maritime, un retour à l'ISF et plus de justice sociale, supprimer la CSG et le CRDS, baisser les charges patronales pour PME et artisans, transparence et réduction des frais de fonctionnement des représentants de l'État, plan de lutte efficient contre la fraude et l'évasion fiscale, la reconnaissance du vote blanc, et enfin, consultation et référendum d'initiative populaire, le peuple étant souverain. Voilà, point final. Donc voilà, j'ai tenu mon engagement. Peut-être que quelqu'un veut intervenir et je lui donnerai volontiers la parole. Monsieur Brancorsini. Moi, je suis peut-être le premier à intervenir. Mais il n'y a pas de quoi.
C'est peut-être un peu nouveau pour moi. Mais tout simplement, je suis tout à fait intéressé par ce qui a été proposé. La seule chose qui me gêne un petit peu, c'est que cette revendication, elle est portée par un groupe. Et moi, j'ai reçu des revendications dernièrement qui ne portent pas toutes les mêmes revendications que celle-ci. Alors, y a-t-il plusieurs groupes de Gilets jaunes ou comment pourrait-on considérer que celui-là est le représentant de tous les Gilets jaunes?
Écoutez, je peux difficilement répondre à leur place. C'est vrai que dans le groupe que nous avons reçu, il y avait un certain nombre de Gilets jaunes de Piolenc, mais il y en avait aussi d'autres communes, dont Camaré. Je ne peux pas vous certifier qu'ils parlent au nom de tous les Gilets jaunes. En revanche, effectivement, quand on lit quelles sont leurs revendications, c'est quand même des choses qui reviennent un petit peu tout le temps, que ce soit ici ou ailleurs. Voilà. Et encore une fois, ce que je tiens à souligner, c'est que tous les maires présents ont approuvé ces revendications et se sont engagés à les répercuter. Voilà, donc nous allons passer à l'adoption du procès-verbal de la dernière séance. Est-ce qu'il appelle de votre part des remarques? Donc je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Et nous passons immédiatement au premier rapport, budget principal, décision modificative numéro 3, rapporteur Sylvette Gilles.
Conformément à l'article L1612-11 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé une décision modificative du budget principal permettant d'ajuster les prévisions budgétaires initiales votées le 5 avril 2018 tout en maintenant l'équilibre budgétaire. La présente décision modificative tient compte des réalisations d'ores et déjà effectuées et celles en cours. Vu l'article L1612-11 du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 2018 des LIB 20 du 5 avril 2018 portant approbation du budget primitif de la commune de Camaret pour l'exercice 2018, vu les différentes réalisations effectuées en 2018 et celles en cours, vu l'avis de la commission des finances réunie le 29 novembre 2018, il est demandé au conseil municipal d'adopter la décision modificative numéro 3 du budget principal de la commune telle qu'annexée. Dans les modifications, donc en section de fonctionnement, rien n'a changé. En section d'investissement, les modifications concernent les dépenses. La première modification, donc à la ligne 21-11 terrain nu, 87 000 euros, qui passe à 97 000 euros en diminution de crédit, qui passe à nouveau crédit à la ligne 20-414. Cette somme correspond à notre participation pour l'achat du terrain pour la nouvelle caserne de pompiers. Au départ, les communes de Sérignat et Camaret devaient acheter chacune leur part. Pour des raisons de facilité administrative, la commune de Sérignat a acheté le terrain et la commune de Camaret, donc, rembourse sa participation à Sérignan. Donc c'est juste un changement de ligne. Et la deuxième modification, c'est la ligne en diminution de crédit 901 euros, la ligne 20-442, subvention équipement pour la rénovation de façades qui ne seront pas utilisées jusqu'à la fin de l'année, qui passe à nouveau crédit à la ligne 10-226, la taxe d'aménagement. Donc ce sont des personnes qui avaient déposé un permis de construire, qui avaient déjà versé une partie de la taxe d'aménagement, qui pour des raisons familiales ou diverses raisons ne vont pas mener à terme leur projet de construction et cette somme leur est remboursée. Voilà, c'est tout.
Merci. Y a-t-il des questions ? Mais écoutez, si tout est clair, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le groupe Ensemble pour Camaret. Adopté à la majorité, je vous en remercie. Dossier numéro 2. Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor chargé des fonctions de receveur, rapporteur Sylvette Gilles.
Monsieur le maire informe l'Assemblée de la nécessité de délibérer pour attribuer l'indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor chargé des fonctions de receveur. En effet, sur la demande de la commune, le comptable public peut fournir des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, notamment pour l'établissement des documents budgétaires et comptables, la gestion financière, l'analyse budgétaire et financière de trésorerie, la gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du développement économique et de l'aide aux entreprises, la mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières. L'attribution de l'indemnité de conseil fait l'objet d'une délibération et est acquise pour toute la durée du mandat du conseil municipal. Vu la loi numéro 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 97, vu le décret numéro 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnité par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'État, vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités de conseil allouées par les communes pour la confection des documents budgétaires, vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux, vu la délibération numéro 2014/86 du 23 octobre 2014 octroyant l'intégralité de l'indemnité de conseil à M. Bruno Laurès en sa qualité de comptable du Trésor, chargé des fonctions de receveur de la commune de Camaret. Vu l'avis de la commission des finances réunie le 29 novembre 2018, considérant le remplacement de M. Bruno Laurès par Mme Catherine Fink du 1er avril au 31 août 2018 et par M. Jean-Marc Brunel pour les mêmes fonctions à compter du 1er septembre 2018, il est demandé au conseil municipal de demander le concours au comptable du Trésor ci-dessus désigné pour assurer des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, définies à l'article 1 de l'arrêté du 16 décembre 1983, d'accorder l'octroi de cette indemnité de conseil au comptable du Trésor au prorata temporis pour l'année 2018, dans les conditions suivantes. Monsieur Bruno Laurès, du 1er janvier au 31 mars 2018 pour 90 jours. Madame Catherine Fink, du 1er avril au 31 août 2018 pour 150 jours. Et monsieur Jean-Marc Brunel, à compter du 1er septembre 2018 pour 120 jours. Puis en intégralité à monsieur Jean-Marc Brunel, à compter du 1er janvier 2019. L'indemnité de conseil sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983. Les sommes correspondantes au versement de ces indemnités seront imputées sur l'article budgétaire 62-25, indemnité au comptable de la section de fonctionnement. Et pour 2018, donc la somme allouée a été de 880 euros.
Merci. Y a-t-il des questions ? Tout ceci paraît technique et fastidieux, mais malheureusement, on est obligé de délibérer à chaque fois. Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 3. Adhésion à l'association Conseil national Ville et Village Fleuri. Rapporteur Elvire Théoki.
Le concours des villes et villages fleuris a pour but de promouvoir le fleurissement et les espaces verts urbains. En 2015, le jury départemental du Conseil national des villes et villages fleuris a récompensé la commune de Camaret-sur-Aigle en lui attribuant une fleur. Cette labellisation permet, outre l'amélioration du cadre de vie des Camaretois, de valoriser le patrimoine et de développer l'activité touristique. Afin de conserver cette labellisation, l'adhésion au Conseil national des villes et villages fleuris est obligatoire. Vu le budget communal, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le versement à l'association Conseil national des villes et villages fleuris d'une cotisation d'un montant de 225 euros correspondant à l'adhésion annuelle 2018. De dire que les sommes inhérentes à cette dépense seront mandatées sur les crédits prévus à l'article budgétaire 6574 de la section de fonctionnement du budget principal 2018.
Merci. Y a-t-il des questions ? Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 4. Communauté de communes Aigouvaise en Provence. Modification des statuts. Rapporteur Hervé Auriac.
Conformément aux articles L5211-5, L5211-5-1 et L5211-17 du Code général des collectivités territoriales, les modalités de modification des statuts des établissements publics de coopération intercommunale doivent d'abord être adoptées à la majorité simple par le Conseil communautaire, puis, selon les règles de la majorité, qualifiées par les conseils municipaux de ces communes membres. Considérant la nécessité de modifier les statuts de la communauté de communes, à savoir la compétence électrification rurale, il est ainsi précisé que la communauté de communes est compétente pour la maîtrise d'ouvrage des travaux d'électrification rurale avec le renforcement, l'extension et l'entretien des réseaux, ainsi que le contrôle de la distribution et de la qualité de l'électricité publique. La nouvelle adresse postale du siège de la communauté de communes. Le siège de la communauté est désormais situé au 252 rue Gay-Lussac, zone d'activité économique Jonquier et Morel, à Camaret. Vu la délibération 2018-81 du 27 septembre 2008, approuvant la modification des statuts par les membres du Conseil communautaire, considérant la nécessité pour les communes membres d'émettre un avis pour toute modification relative au statut, il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver la modification des statuts de la communauté de communes qui porte sur la compétence maîtrise d'ouvrage des travaux d'électrification rurale avec le renforcement, l'extension et l'entretien des réseaux ainsi que le contrôle de la distribution et de la qualité de l'électricité publique. Donc la nouvelle adresse, 252 rue Gay-Lussac, à la zone économique Jonquet et Morel. Et vous avez en ajout les dispositions générales concernant ces statuts.
D'ailleurs, une bonne nouvelle concernant cette zone d'activité, puisque je peux vous indiquer qu'il ne reste plus qu'une parcelle à vendre. Et nous allons bientôt pouvoir clôturer ce budget annexe au niveau de la communauté de communes. Donc, y a-t-il des questions ? Madame Thibault, vous avez une question ?
Non, non. J'ai expliqué à mon collègue que j'avais initié cette zone d'activité.
Ah. Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 5. Modification du RIFSEP, régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, ITE, indemnité de technicité et d'expérience, et PIRA, prime incitative de résultat et d'assiduité, filière culturelle, filière sociale, rapporteur Antonio Buga.
Donc, chers collègues, je vais vous passer tous les articles, les différents tableaux. Je pense qu'on a déjà débattu là-dessus. Donc, je vais directement aller à la conclusion. Donc, il est proposé au conseil municipal d'intégrer au sein de la commune à compter du 27 mai 2018, conformément au principe de parité tel que prévu par l'article 88 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, le RICEP, pour les agents de la commune relevant de la filière culturelle et sociale définie ci-dessus. D'accepter la modulation de l'IET sur la base de l'expérience professionnelle selon une évaluation mensuelle en indice par rapport au montant mensuel actuellement perçu par l'agent selon le tableau ci-dessus. De permettre la modification des crédits afférents au crédit global de chaque prime en fonction de l'évolution du tableau des effectifs, ainsi que la revalorisation des barèmes et taux applicables aux fonctionnaires d'État en fonction des textes en vigueur sans nouvelle délibération. De préciser que le maire est chargé de l'application des différentes décisions de cette délibération par le biais d'arrêtés individuels d'attribution. De prévoir les crédits nécessaires au budget primitif, chapitre 012, charges de personnel, frais assimilés, articles 64-111 et 64-131.
Merci. Alors ce dispositif demande-t-il des éclaircissements, des explications supplémentaires, même si nous en avons déjà débattu. Madame Thibault. Monsieur Mengui.
Une précision sur l'ITE. On a une évolution mensuelle négative pour les points qui vont de 0 à 3. J'avoue que j'ai pas compris comment on pouvait avoir une évolution négative, ou elle est stable comme ça peut être le cas en dessous, ou elle est en progression. Par contre, là, on est sur du... Alors, c'est pas grand-chose, hein, mais c'est du moins quelque chose. Alors, j'avoue que, bon, ça m'avait peut-être échappé quand on a eu ça. Si on pouvait avoir un éclaircissement.
En fait... Hein. Ça dépend de l'évaluation professionnelle. Hein. L'indice à la hausse ou à la baisse évolue selon le nombre de points obtenus sur deux critères, plus le nombre de jours de formation lié donc l'ensemble à l'expérience professionnelle. Et donc un agent qui aurait moins de 3 points, vu les critères et la valorisation des critères, c'est vraiment un agent qui mettrait du sien pour être très 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 mal noté. Là, on vient de finir les évaluations professionnelles. Je pense que l'évolution la plus basse de l'ITE, elle est à 0,04. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun agent qui voit son régime indemnitaire stable et aucun, a fortiori, qui voit son régime indemnitaire baisser.
Madame Thibault.
Oui.
Je voulais poser une question concernant, on a déjà évoqué ce RIF 7 il y a quelques mois de cela. Effectivement, aujourd'hui, on va voter la filière culturelle et la filière sociale. Vous deviez étudier la question concernant les agents, enfin, je parle de la police municipale, les agents de la police municipale. Alors, effectivement, on vote ce RIF 7 en fonction des textes en vigueur. Je sais que pour la police municipale, ce n'est pas en vigueur. Mais moi, je renouvelle encore, je dirais, ce souci d'équité par rapport à l'équipe de la collectivité, aux agents de la collectivité. Aujourd'hui, on termine pratiquement la mise, je dirais, en place de ce nouveau régime indemnitaire. Donc, je voulais savoir si la question avait été étudiée concernant une prime pour la police municipale, de façon à ce qu'il ne soit pas lésé par rapport aux autres agents. Voilà, ça, c'est mon souci d'équité. Voilà.
Alors, effectivement, les textes en vigueur actuellement n'ont toujours pas intégré les agents de la police municipale, ainsi que les agents de la filière sanitaire, c'est-à-dire par exemple les auxiliaires de puériculture. Donc on a un certain nombre d'agents, et notre puéricultrice également, on a un certain nombre d'agents qui ne sont toujours pas, du fait de l'absence de texte, bénéficiaires du RIFSEP. Donc on a décidé, pour compenser à égalité totale avec les agents bénéficiant du RIFSEP, de jouer sur les primes existantes de ces agents-là, et sur un ou deux mois, selon le taux que l'on doit atteindre pour avoir des primes équivalentes aux autres agents, et bien d'augmenter sur un, deux ou trois mois les primes existantes que l'on peut augmenter de ces agents-là. C'est-à-dire que à évaluation égale, un agent de la police municipale ou une auxiliaire de puériculture ou une puéricultrice touchera la même prime de fin d'année et la même évolution du régime indemnitaire. Voilà.
D'accord. Merci pour la réponse.
Très bien. Je peux mettre aux voix. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 6, création d'emplois non permanents pour faire face à un accroissement saisonnier et temporaire d'activités, services administratifs, collectivité entretien et enfants jeunesse, rapporteur Antonio Muga.
Vu l'article 3, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, vu le budget de la commune, considérant qu'il est nécessaire de recourir à l'emploi d'agents non titulaires pour faire face à un accroissement saisonnier d'activités et un accroissement temporaire d'activités, considérant que ces agents exerceront à titre principal les fonctions d'adjoint d'animation territoriale, d'adjoint technique territoriale et d'adjoint administratif territorial. Oui, la proposition de Monsieur le maire de créer ces postes d'adjoint d'animation territoriale, d'adjoint technique territoriale et d'adjoint administratif territorial. Il est demandé au conseil municipal d'accepter de créer les postes suivants pour un accroissement saisonnier. 15 postes d'adjoint d'animation territoriale à temps complet pour le service enfance-jeunesse pour les vacances d'hiver et de printemps 2019. D'accepter de créer les postes suivants pour un accroissement temporaire. 3 postes d'adjoint technique territorial à temps complet pour le service collectivité, entretien et restauration. 4 postes d'adjoint d'animation territoriale à temps complet pour le service enfance-jeunesse. Et 1 poste d'adjoint administratif territorial à temps complet pour le service population. D'imputer les sommes afférentes à cette dépense au chapitre 012 du budget principal de la commune.
Merci. Y a-t-il des questions ? Alors, s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 7. Modification du tableau théorique des effectifs. Rapporteur Antonio Muga.
Vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, complétée et modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Vu le décret numéro 2016-604 du 12 mai 2016, fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale. Vu la délibération du 20 septembre 2018 établissant le tableau théorique des effectifs de la commune de Camaret-sur-Aigle. vu les dispositions statutaires applicables aux différents agents de la commune en matière d'évaluation de carrière, d'évolution pardon, de carrière, vu le départ de certains agents, considérant l'intégration au tableau théorique des avancements de grade proposés à la promotion interne en commission administrative paritaire du 26 juin 2018, considérant que les crédits seront inscrits au budget primitif 2018 au chapitre 012. Oui, les propositions de Monsieur le maire. Il est demandé au conseil municipal d'accepter l'intégration au tableau théorique des avancements de grade, d'accepter la création d'un poste suivant, un poste d'attaché territorial à temps complet pour le service urbanisme, d'accepter la suppression des postes suivants, 3 postes d'ATSEM principal de deuxième classe territoriale à temps complet pour le service enfance-jeunesse, d'accepter le nouveau tableau théorique des effectifs tel qu'annexé à la présente délibération.
Madame Thibault.
Oui, je posais une question concernant la suppression des postes de trois ATSEM principales de deuxième classe, parce que dans le tableau des effectifs, on retrouve donc 4 ATSEM de première classe et une seule de deuxième classe. Et là, on supprime, alors je ne comprends pas très bien, 3 postes ATSEM deuxième classe. Elles sont, et sont où ? Elles avaient été. Ouais. Mais ok, parce que là sur le il y a 4 postes d'ATSEM de première classe, hein, d'accord. Mais de deuxième classe que vous supprimez.
Il y en avait 5 avant.
5.
Et ils sont où?
Ils sont.
Elles ont été nommées ailleurs.
Non, elles ont été nommées au grade supérieur.
Mais elles sont où? Parce que si elles sont au grade supérieur, parce que moi je les retrouve en première classe. C'est bon ? Première classe au-dessus. D'accord. Voilà, c'est ça. On est d'accord.
Il y a eu une délibération qui a été faite à ce sujet ?
C'est ça ?
Oui.
Oui, c'est, en... c'est, oui, c'est celle-ci. Ah,
voilà, c'est le tableau mis à jour. Ok, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Vous avez eu l'état des déclarations d'intention d'aliéné ainsi que celui des décisions du maire. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une question diverse ? Il me reste donc... Ah, monsieur Minguet, excusez-moi, je ne vous avais point vu.
Est-ce qu'on pourrait avoir le coût des travaux qui ont été engagés sur le cours avec l'abattage donc des platanes d'une part et après je suppose la remise en état du cours. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée du coût supplémentaire que ça va engendrer, s'il vous plaît?
Alors, ce que je vous remercie pour cette question qui permet aussi de répondre à un certain nombre d'interrogations de la part de nos concitoyens. Il faut savoir que malheureusement, quel regret, les platanes, enfin il y a un platane qui a été diagnostiqué récemment comme ayant été atteint par le chancre coloré. Et autant il y a un certain nombre de maladies qui touchent les platanes mais qui ne menacent pas leur survie et surtout qui ne font pas l'objet de la réglementation qui est applicable aux chancres colorés qui donc nous oblige, la commune propriétaire, à abattre non seulement le platane qui est atteint mais aussi dans un certain périmètre les platanes qui sont voisins. Ne serait-ce que parce que cette maladie, cette saloperie, on pourrait dire, contamine, se propage par les racines. Donc nous avons, malheureusement, nous n'avons aucune marge de manœuvre en tant que mairie et nous sommes tenus, à partir du moment où nous avons été avisés officiellement de la présence de ce chancre coloré sur un platane, nous sommes tenus dans un délai très court, très très bref, de procéder à l'abattage des platanes qui sont autour. Donc il en a été abattu 6 à ce jour. Donc vraiment, on a fait le minimum, on a essayé d'en garder le maximum. Il nous est arrivé ce qui est arrivé à bien d'autres communes, et j'en veux pour preuve ce qui est arrivé assez récemment à la commune de Travaillant, qui a dû, comme vous l'avez pu le constater, aussi abattre ses platanes, auxquels pourtant les travaillanais tenaient beaucoup, comme les camarades et toi tiennent à leurs platanes. Malheureusement, encore une fois, on ne peut pas faire autrement. Il faut savoir que, s'agissant du chancre coloré, on ne peut malheureusement pas replanter tout de suite. Il faudra dessoucher, procéder au dessouchage. Celui-ci va intervenir courant janvier, début janvier. Et ensuite, nous allons être tenus de respecter un certain délai pour replanter, pour procéder à la plantation d'une autre espèce qui ne pourra, là encore, c'est la loi qui nous y oblige, et qui ne pourra en aucun cas être un platane, des platanes, malheureusement. Donc on va planter autre chose comme essence, mais nous sommes tenus à un délai qui, me semble-t-il, est de 2 ans avant de pouvoir procéder au remplacement de ces arbres. Donc c'est pour vous dire que pour l'instant, on ne peut pas avoir un coût précis de toute l'opération, mais nous vous en ferons part dès que nous l'aurons, soyez-en certains. Voilà, mais il faudra intégrer à ce coût la replantation de nouvelles essences dans les 2 ans qui viennent. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Voilà.
Partiellement.
Comment ?
Partiellement.
Oui, parce que pour l'instant, je vous ai fait état de toutes les informations dont je disposais. Mais si vous le souhaitez, lors du prochain conseil municipal, qui je vous l'annonce, aura lieu le 24 janvier, nous ferons déjà un état du coût de cette opération, même si elle ne sera pas terminée, comme je vous l'ai expliqué. Monsieur Brancorsini. A priori non. L'incidence que nous allons peut-être avoir, c'est concernant l'occupation des trottoirs et des places de stationnement, puisque nous ne pourrons pas planter d'essence aussi imposante que le platane. Nous allons peut-être, ce sera toujours ça, gagner un petit peu de surface de stationnement, ce en quoi nous nous sommes engagés depuis longtemps et que nous avons respecté jusqu'à présent, sachant que nous sommes très attachés à la survie de notre centre-village et de nos commerces traditionnels. Voilà, donc je vous donne rendez-vous, Madame Seller.
J'aurais une question pour Madame Guerrero, s'il vous plaît. Deux questions, en fait. La première, c'est pourquoi n'y a-t-il pas eu de commission sociale avant la fin de l'année? Et la deuxième concerne les deux logements qui sont derrière le Ravelin, à l'entrée. Et sur les questions d'attribution, quels étaient les critères d'attribution de ces deux logements?
Les deux logements, c'est auprès de la demande avec la mairie, donc ce n'est pas propre à moi. Et bon, il y a eu des demandes et les critères sont bien sûr comme les autres critères pour l'urgence, dans la mesure où la personne se retrouve seule, les moyens financiers. Enfin voilà, donc après il y a eu des demandes, mais peut-être pas assez par rapport aux deux appartements. Puis voilà, quoi, c'est des personnes de Camaret notamment aussi.
Les logements, vous dites que les logements sont attribués par la mairie, donc pas par les listes sociales.
Non, c'est le logement de la commune, oui, bien sûr, mais.
Mais vous ne prenez pas les listes sociales du CCAS.
Voilà. Ce qu'il faut indiquer, c'est qu'effectivement les logements municipaux ont été attribués par la mairie, ce qui me paraît un petit peu naturel. Mais après, un rapport et une enquête sociale effectuée par le CCAS de Camaret dans les mêmes conditions que pour l'attribution des autres logements sociaux que nous pouvons gérer au titre de la mairie de Camaret ailleurs sur le territoire communal. Donc c'est bien le CCAS qui a fourni, qui a fait toute la recherche, toute l'enquête sociale qui a présidé à l'attribution de ces logements.
Oui, mais aujourd'hui, c'est une attribution de logements
sociaux. Excusez-moi, Madame Thibault, s'il vous plaît, demandez la parole et parlez dans le micro. Je vous en remercie d'avance.
Je voulais simplement vous demander, vous parliez de logements d'urgence qui ont été attribués. Non, ce n'est pas les logements d'urgence.
Non.
D'accord.
Il y a le logement d'urgence, c'est une chose à part. Oui, d'accord. Mais il y a le logement qui ont été attribués.
Oui, dans le cadre de la dossier de demande de sociale.
Et où il n'y avait pas d'attribution par
De toute façon, le logement d'urgence n'est pas attribué par la municipalité. Ça peut être attribué par un organisme extérieur. Voilà. Et ma première question au sujet de la réunion, enfin de la commission sociale.
Oui, ben écoutez, si on pour le moment, on n'a pas eu lieu d'en faire une parce qu'on a le conseil d'administration, mais enfin, on peut en établir une si c'est votre souhait. On peut
je voulais simplement savoir pourquoi il n'y en avait pas eu, c'est tout.
Vous ne faites pas partie, si vous
de la commission sociale, si, pas du CCAS, la commission sociale.
Sociale, d'affaires sociales, vous en faites partie ?
Oui.
Je ne sais pas. Enfin, oui, on vous mettra au courant dès qu'on en fera une pour votre.
D'accord, merci. Bien.
Y a-t-il d'autres interventions, d'autres questions ? Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier pour la qualité et la correction de nos débats et à vous souhaiter non seulement une bonne soirée, mais aussi un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année.